Cercavo la grande bellezza. Ma non l'ho trovata.
That's funny. That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de votre émission de cinéma sur Transistor d'Étoiles plein les yeux. Les yeux cette semaine sont ceux de Mathias et de Maxime. Quant à la toile, la lumière qui s'y pose nous vient du Levant car c'est du dernier film de Jia Zhangke, Au-delà des montagnes, dont il sera question. L'histoire de départ est simple, nous sommes en Chine en 1999 et deux hommes aiment une femme, Tao. Le premier, Liang Zi, est un ouvrier réservé et modeste. Le second, Tang, propriétaire d'une lucrative station-service, est exubérant et ambitieux. Tao se marie finalement avec Zhang, dont elle a un enfant, qu'il décide de nommer Dollar. 15 ans plus tard, en 2014, ils sont séparés. Le père est parti avec l'enfant à Shanghai. Quant à Liang Zi, il est rongé par un cancer, conséquence de son travail à la mine. Puis, après un nouveau saut de 11 ans, on retrouve Dollar en 2025, vivant en Australie avec un père de plus en plus aigri, lui-même complètement déraciné, et c'est sa quête d'une identité perdue qui nous est alors montrée. Résumé comme ça, le film a l'air vide et décousu. Il n'en est rien. Bien au contraire, c'est que Jia Zhangke met en place un édifice impressionnant qu'on ne peut pas réduire à un simple synopsis et qui entre en résonance avec toute l'époque que traverse depuis 20 ans une Chine en pleine mutation, complètement déboussolée, et que le cinéaste dépeint inlassablement dans chacun de ses films. Mais cette dimension politique n'empêche pas Au-delà des montagnes d'être un film intime, concentré avant tout sur la vie d'hommes et de femmes dans ce monde en expansion. Nous reparlerons de tout ça dans quelques instants. En attendant, je me tourne vers vous, Mathias et Maxime, pour vous demander votre avis sur ce film.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors, je pense que là, on va être assez unanime sur Au-delà des montagnes, parce que je sais que tu as beaucoup aimé, et j'ai aussi beaucoup aimé ce film. Pas forcément pour une raison particulière, c'est juste que quand on est devant ce film, on est happé par l'image. Happé par l'histoire qui se déroule. Et même si le film est assez long, de 2 bonnes heures, je crois, on a quand même la sensation d'être emporté par une vague et une histoire qui coule d'elle-même et qui coule de source.
Oui, c'est vrai. Effectivement, je trouve qu'il y a 2 mots pour décrire ce film, peut-être, qui me sont venus comme ça. C'est déjà l'intensité qui fait que ces 2 heures, elles sont vraiment bien remplies, il n'y a pas de problème, c'est extrêmement dense au niveau à la fois des symboles, des parties pris graphiques, de l'histoire, des émotions qui passent. On a aussi une grande élégance dans le traitement de ces symboles, je trouve, avec vraiment un tissage méticuleux, des points qui vont revenir, tout est très bien calibré de ce point de vue-là. Moi, c'est peut-être un peu personnel, j'ai moins accroché à la dernière partie où on a des symboles qui deviennent très très imposants. C'est peut-être aussi un certain sens du dépaysement qui se réduit, mais évidemment ça va dans le sens du propos du film. C'est-à-dire cette impression qu'on a de se noyer un peu cette espèce de culture high-tech mondialisée un peu... de perte de repères, etc. Bon, c'est une partie qui met moins à l'aise, je trouve. Mais c'est un très beau film, ça, c'est certain.
Oui, en ce qui me concerne, je suis à peu près d'accord. Hein. Ça reprend ce que Jia Zhangke a toujours fait. Moi, je me souviens de son précédent film, A Touch of Sin, qui était vraiment brillantissime et qui montrait toute la violence à l'œuvre dans les changements politiques en Chine ces dernières années. Ça reprend tout ce travail. Et ça rajoute en surimpression ce mélodrame qui est vraiment splendide et qui fait que cette histoire nous touche vraiment chacun personnellement, ne serait-ce que par les vécus intimes qui sont ceux qui sont présentés, indépendamment de toute portée politique. Et puis, évidemment, il y a ce côté presque documentaire dans la façon de montrer ces hommes et ces femmes au milieu des immensités, que ça soit de la nature chinoise ou de l'industrie, de toutes ces grandes villes aseptisées, comme on en voit dans la troisième partie, même si ça se passe en Australie, c'est toujours de la Chine qu'on parle. Et ça en fait un tout qui reste quand même extrêmement cohérent, qui techniquement est vraiment très bien réalisé. Techniquement, c'est assez audacieux sur certains points, mais ouais. Ça sert toujours le propos du film. La musique, on en reparlera peut-être. le choix des chansons pop de Jason Kay, qui avait déjà été remarqué sur ses précédents films, est toujours vraiment au service du film. Et ça en fait un très, très beau film. Un très, très beau film, tu nous disais la semaine dernière, très rapidement, sur le temps qui passe. Et justement, la dynamique temporelle qui est à l'œuvre dans le film est vraiment très très dense, très très intéressante, et elle est sans cesse améliorée par une tonne de petits détails qui font de ce film en effet un vrai film sur le temps avec une inscription temporelle très forte.
Oui, alors je reviendrai un peu sur ce que j'avais dit la dernière fois pendant l'émission. C'est un film sur le temps qui passe, mais aussi je pense sur le temps qui ne passe pas. Et un temps qui finalement ne démolit pas. Enfin voilà, il y a quand même, je pense, l'idée de... Même si on avance, il y a certaines choses qui restent. Et peut-être derrière le fait qu'il y a une sorte de Chine qui restera, et une sorte de... Il y a des personnages qui restent, il y a des structures qu'on retrouve. Et notamment, enfin, le... Voilà, enfin, je ne vais pas spoiler tout le film, mais il y a quand même une sorte d'unité à travers le temps qui passe, et de choses qu'on retrouve, et de choses qui finalement n'évoluent pas, et qui sont connotées assez positivement.
Ce tissage temporel dont tu parles, et alors juste quelques éléments. Évidemment, on pense à la première et la dernière scène où on danse sur une même musique, où finalement rien n'a changé, et tout a changé pourtant, mais il y a une tonne de petits éléments qui reviennent. Il y a ce téléphone portable dont on dit dans la première partie qu'il n'apporte que des bonnes nouvelles, et qui, dans la dernière partie, est le téléphone qui annonce la mort. Il y a ces raviolis qui scandent le film, et qui sont vraiment le rattachement à la Chine profonde, ce plat traditionnel. Il y a ça, il y a ce garçon qui porte une hallebarde, qu'on voit à différents moments du film se promener. Ouais.
Ben, je dirais que même au-delà de ça, il y a les paysages quand même qui sont super importants, enfin qui sont vraiment des repères. C'est la toile de fond logiquement, mais on a beaucoup de scènes en extérieur et des paysages qui reviennent, et même des gestes liés au paysage, si bien que c'est à se demander si le paysage a autant d'importance que certains personnages secondaires qui sont là avec une certaine récurrence. Je pense au temple, à la scène où on voit la ville derrière le fleuve là, avec les montagnes, qui revient aussi avec un peu de glace dessus, qui est sans doute assez représentatif de la province de Chine où ça se passe. On a plusieurs, la route aussi, des lieux assez symboliques, mais qui sont très importants et qui reviennent comme ça. Et c'est pas innocent que la dernière partie où on se perd un peu là, elle soit pas sur ces lieux, qu'elle soit ailleurs. On a aussi des lieux très symboliques, mais c'est plus les mêmes, avec cette espèce de perte de repères un petit peu. Mais je pense vraiment que les lieux sont très importants et ils sont bien choisis. Ça, c'est
au service du message politique du film, de ce déracinement que Jason Kay veut montrer. De ces personnages qui sont happés par le capitalisme, entre autres, qui prend possession de la Chine, qui en a pris possession en quelques décennies. Et le personnage du père, à ce titre, est quand même particulièrement intéressant. Cette ascension soudaine vers la finance, puis la fuite en Australie, on comprend qu'il y a des histoires de corruption quand même, qui n'en est pas très satisfait à la fin, parce qu'il est complètement aigri à la fin du film. Et c'est un tableau assez noir que Jason Kay dresse de la Chine.
C'est surtout un tableau de deux Chines, et deux Chines qui n'ont pas évolué, qui sans doute n'évolueront pas à la même vitesse. Et notamment, ce que disait Maxime sur les lieux, il y a aussi toute la question des transports. On a deux transports assez contraires, plutôt trois transports. On a d'une part la voiture qui est achetée par le...
Zhang,
qui est un peu une voiture rouge, qu'il achète parce qu'il a de l'argent, donc il a les moyens de s'acheter une voiture, alors que Tao, elle, est toujours sur son petit scooter, et l'autre, le mineur, n'a pas de transport. On a aussi toute la distinction entre le train, qui est le transport un peu du peuple, le transport du pauvre, qui est un peu, et aussi le transport du passé, puisque c'est le moyen de locomotion que prend le père de Tao, alors qu'au contraire, on a l'avion, le transport du futur, qui est celui qui relie Shanghai à la province de Tao. Ces deux moyens un peu parallèles qui montrent un peu deux Chines qui se font face.
Mais même ça, c'est pas univoque, parce que à chaque fois, les transports, ils sont on va dire étagé, mais il y a une évolution. Mmh. Justement, tu parles du train. Alors, eux, ils prennent à chaque fois un train classique, voilà. Mais ils parlent du train, je crois qu'à un moment, ils
voient passer
pourquoi est-ce qu'on prend pas, pourquoi est-ce qu'on prend pas le train, le TGV de là-bas, quoi.
Je trouve ça intéressant parce que par rapport au train à grande vitesse et au train omnibus, ouais. quand le petit demande à sa mère, mais pourquoi on prend pas le train à grande vitesse, elle lui répond parce que je prends le temps, et je prends le temps d'être avec toi.
Oui.
Et je trouve ça très intéressant de voir qu'on prend le train omnibus qui met très longtemps, mais en même temps, voilà, c'est une autre façon de s'approprier le paysage et de s'approprier aussi l'espace de ce film.
Alors, je voulais juste revenir sur l'avion. L'avion qui représente le progrès technique, la modernité, tout ce qui emporte la Chine, avion qui s'effondre sous les yeux de Tao à un moment du film. Et c'est aussi une scène qui, pour moi, est très, très importante. C'est cet avion dont on parle à la radio et qui va s'écraser devant les yeux du personnage.
Très brillamment.
Parce que cette Chine, elle est en plein envol, mais il y a encore des ratés.
Oui, il y a tout ça aussi sur le fait qu'on est sur une région minière de charbon. Et il y a tout un discours dans la période de 99, mais aussi en 2014, pour dire que la mine, c'est fini, c'est plus l'avenir, faut passer à autre chose. Il y a une scène, parce que on a oublié de dire que le film était un peu rythmé par des passages en plan resserré, comme filmé par des caméras amateurs. Et il y a une scène où on a un camion de charbon qui n'avance plus, qui est pris dans la boue, et on a un groupe d'hommes qui essaie de faire avancer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le charbon tombe et que le camion n'avance plus. Il y a peut-être une Chine qui n'avance plus, une Chine qui va peut-être un peu trop vite.
Mais justement, sur toutes ces... Justement, c'est quelques plans qui n'ont pas de rapport avec l'histoire et qui finalement servent de transition entre les époques. Le travail formel sur le cadre est très intéressant. Chacune des trois époques est filmée avec un cadre différent. Et on passe du 1.33 très resserré sur ces personnages dans la première partie, on passe au 1.85 et on est en scope une fois qu'on est dans la troisième partie en Australie. Les personnages sont perdus dans les coins du champ. Et pareil, il y a cet espace qui s'étend autour des personnages. Pour le coup, la forme est vraiment au service du fond là, dans le film.
Oui, bien sûr. Puis il y a aussi aussi un petit côté nostalgie d'époque quand on voit ce format carré qui se rapproche du 4 tiers de l'époque VHS.
C'est un 4 tiers.
Donc c'est pareil, on est vraiment dans cette époque.
Pour finir, je pense qu'on peut peut-être revenir sur le jeu des acteurs, et en particulier de Cao Tao, qui est la femme de Jia Zhangke et qui livre une prestation vraiment, vraiment remarquable sur ce film, qu'elle tient. Enfin, c'est elle qui porte vraiment le film du début jusqu'à la fin. Elle et la Chine, si on veut. Il y a vraiment ces deux dimensions entre le film très intimiste et le film éminemment politique. Et je crois qu'on ne peut pas ne pas rapidement saluer la performance d'actrice. Tous ces acteurs, donc, qui dans ce film, qu'on vous recommande chaudement de voir, répondent tous, d'une certaine façon, à cette même injonction. Il s'agirait de partir on ne sait pas où. Liang Zi qui part dans le nord, ces personnages qui partent en Australie, toute cette fuite en avant, mais qui finalement ne mène à rien, parce que la première scène et la dernière, pour le personnage central, sont exactement la même. Et cette injonction à partir est symbolisée tout au long du film, de façon très ironique, par la chanson Go West des Pet Shop Boys, qui revient à la première scène, qui revient à la dernière, et sur laquelle nous allons terminer cette séquence. Quelques rappels sur l'actualité cinématographique pour finir. Vous n'avez pas pu le manquer. Quentin Tarantino sort un nouveau film au casting impressionnant. On cite même plus la ribambelle d'acteurs qui l'utilisent sur ce film. Avec en prime le retour triomphal d'Ennio Morricone qui vient de remporter un Golden Globe pour la BO du film. On en reparle normalement la semaine prochaine, ici même. En attendant, ne manquez pas les deux projections de Pulp Fiction à l'Institut Lumière ce week-end. Autre film sorti récemment, À peine j'ouvre les yeux, de Leila Bouzid. Farah a 18 ans, elle vient d'obtenir son bac avec mention et chante dans un groupe de rock des chansons peu agréables pour le système politique en place. Farah est belle, elle est pleine d'énergie, elle a soif de liberté, mais Farah vit en Tunisie, quelques mois avant la révolution en 2010. un film salué par la critique et les jurys de plusieurs festivals, avec une bande originale extraordinaire et qui livre un message politique particulièrement fort sur cette jeunesse révoltée donc. À noter aussi la sortie d'un documentaire sur Janis Joplin, réalisé par Amy Berg, pour continuer sur le thème des chanteuses exprimant les aspirations de toute leur génération. Enfin, ne manquez pas le festival Télérama du 20 au 27 janvier qui revient sur les films qui ont marqué l'année dernière. Et cette semaine, j'aimerais que nous revenions très rapidement sur le dernier film de Woody Allen, L'homme irrationnel, que tu as vu, Mathias, je crois.
Oui, que j'ai vu. Et je dois dire que j'avais beaucoup aimé quand même L'homme irrationnel. Enfin, je trouvais que c'était quand même. Qu'on fait quand même un mauvais procès à Woody Allen à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a. Un peu l'exercice de style où on va dire du mal de Woody Allen, encore une fois, parce que voilà. Et là, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Il faut quand même dire que Woody Allen fait quand même des films qui font voilà, en général une heure et demie, et généralement voilà, avec une petite histoire qui est généralement assez bien ficelée.
Ben, je l'ai vu aussi, et puis j'étais très content. Enfin, c'est d'abord Joaquin Phoenix est brillantissime, la performance d'acteur est vraiment, et puis Emma Stone tient très bien son rôle aussi. Et puis voilà, c'est un bon film et allez donc voir voilà. L'homme irrationnel du 20 au 27 janvier donc au Festival Télérama qui se passe dans un certain nombre de salles en France, entre autres le Comédia à deux pas de l'ENS. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour cette semaine. Merci à Mathias et Maxime, merci à Clément pour la régie et à bientôt sur Transistor.